Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile manifestée en Jésus-Christ. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père et celui de Jésus-Christ. Nous nous présentons ensemble devant le Seigneur notre Dieu avec le premier chant que vous trouverez sur le petit livret qui est au début du psautier français et qui va guider le déroulement de notre culte. Bénissons Dieu, le seul Seigneur, nous qu'il choisit pour serviteurs. De tout notre cœur éternel, nous te rendons grâce. Nous te chantons en recevant ta parole. Nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité, car tu fais grandir en nous, en notre âme, une force. Nous te rendons grâce quand nous entendons les paroles de ta bouche et nous chantons les chemins de l'Éternel. Oui, quelle est grande la gloire de l'Éternel. Et si haut que soit l'Éternel, il voit le plus humble, le plus petit. Quand nous marchons au milieu des angoisses, toi, Seigneur, tu nous fais revivre. C'est ta droite qui nous rend vainqueurs. L'Éternel fait tout pour nous. Notre Dieu, ton amour est éternel. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. C'est ce psaume 138 dont je viens de vous lire un extrait que je vous propose de chanter maintenant à la gloire de Dieu. Le psaume 138 dans le psautier français, les trois strophes de ce psaume.
Je te rends grâce,
Vous pouvez prendre place. Et après avoir accueilli la présence de Dieu par la louange, c'est très chaleureusement que je voudrais accueillir chacune et chacun en cette maison. Oui, il fait bon d'être ensemble pour chercher Dieu, pour s'ouvrir à sa présence et pour lui rendre un culte. Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus-Christ, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous dis, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et face à cet idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu pour reconnaître nos limites et lui demander son pardon et son aide. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce psaume de David. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel qui subsisterait. Mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'on puisse se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut, il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Mais le Christ, par ses paroles et par sa vie tout entière, nous a donné la certitude de la bienveillance irréductible de Dieu pour chacun d'entre nous. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En Christ, l'Éternel, notre Dieu, se penche vers nous et nous dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Et en réponse à l'amour de Dieu, nous nous tournons vers lui par la foi, nous lui disons notre foi, Alors c'est ce que je vous propose de faire en vous associant du cœur à cette simple déclaration de croyance chrétienne. Je crois en un seul Dieu, notre Père. Il a pour chacun des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Frère. Il a pour vocation de nous apporter le salut. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est offert. L'Esprit appelle notre foi et il fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu nous demeurons éternellement dans la liberté et dans la joie. Seigneur, augmente jour après jour la confiance que nous avons en toi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Dieu serait, paraît-il, un être immuable. C'est une des trois ou quatre grandes certitudes de la théologie chrétienne depuis des siècles. Dieu serait un être omnipotent, tout-puissant. Dieu serait un être omniscient, sachant tout, même d'avance. Dieu serait omniprésent et immuable, sans début ni fin, sans changement d'aucune sorte, ni dans son être, ni dans ses qualités, ni dans ses projets. Un certain nombre de ces grandes affirmations sur Dieu sont très discutables. Alors à commencer par la notion de toute-puissance, qui est aujourd'hui bien heureusement remise en cause par pratiquement tous les théologiens chrétiens. Cette évolution se manifeste jusque dans les nouvelles éditions de la Bible, les plus sérieuses, les plus réputées, comme la Nouvelle Bible Seconde, comme la nouvelle édition de la traduction œcuménique de la Bible. On en a déjà parlé. Pour ce dimanche, nous allons lire dans le livre de la Genèse des récits où Dieu n'est apparemment pas si immuable que ça. Pas si immuable qu'on a bien voulu le dire pendant des siècles. Quelques passages où l'on voit que Dieu change, évolue et s'adapte. Alors ça commence par le premier paragraphe de la Bible tout entière, donc dans le livre premier de la Genèse, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Et il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Et il en fut ainsi. Dieu appela la terre la partie sèche, et il appela mer la masse des eaux. Et Dieu vit que cela était bon. Alors ensuite, je vais vous lire dans le chapitre 6, à partir du verset 5, donc du même livre de la Genèse, c'est le début du récit du déluge. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ce fut parmi elles qu'ils se choisirent des femmes. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront au maximum de 120 ans. » C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était ainsi corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre maintenant fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux, et je vais donc maintenant les détruire avec la terre. Mais toi, fais-toi une arche en bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, tu la couvriras d'un enduit, en dedans comme en dehors. Et tu la feras ainsi. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui sous le ciel a souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme, tes belles-filles. » Alors je vous lis ensuite la fin de ce récit du déluge au chapitre 9 à partir du verset 8. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et il leur dit, Dieu a fait l'homme à son image et vous, soyez féconds, multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. J'établis mon alliance avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que pour tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans les nuées, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Et si par hasard, quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra alors dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants. Et les eaux ne se transformeront plus en un déluge pour détruire toute chair. L'arc-en-ciel sera dans la nuée. Je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu avec tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer à laisser résonner ces textes anciens en nous, je vous propose de chanter encore dans le psautier français le psaume 98. Entonnons un nouveau cantique pour célébrer le Dieu Sauveur, les trois premières strophes de ce psaume 98. Seigneur, nous te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous touche au plus secret de nous-mêmes, mettant chaleur, paix, joie dans notre cœur. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles. Que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations. Que ta joie nous accompagne dans nos chemins, quand ils sont semés d'obstacles, mais aussi quand ils sont semés de merveilles. Car tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de chacun de tes enfants. Les théologiens qui soutiennent mordicus l'idée que Dieu serait immuable s'appuient sur la Bible, quand même, c'est le minimum des choses. Et leur principale pièce à conviction se résume en fait à quelques versets, au psaume 102, « Toi, éternel, tu restes toujours le même ». Au prophète Malachie, au chapitre 3, « Je suis l'éternel, je ne change pas ». Et surtout, dans la lettre de Jacques, au chapitre 1er, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Alors cette idée que Dieu serait immuable existe donc depuis longtemps, elle existe dans la Bible, mais il y a aussi bien des passages bibliques qui montrent au contraire que Dieu change. Il change d'abord parce que Dieu n'est pas, comme le pensaient certains philosophes grecs, un Dieu indifférent à ce qui se passe sur terre. Au contraire, la Bible nous dit que Dieu a des égards pour sa création et tout particulièrement pour les humains et qu'il leur a accordé une liberté. Dieu accompagne ce bon projet qu'est la création et au fur et à mesure que les circonstances changent, il en tient compte. Et donc Dieu adapte son projet, il adapte ses actions, il réagit à ce que les humains choisissent de faire et de penser. Et en réaction, donc, Dieu change. C'est ce que nous voyons, par exemple, dans cette histoire du déluge qui commence en nous montrant que Dieu observe les hommes se multiplier et il décide alors d'adapter son projet en limitant la durée de vie des humains au maximum à 120 ans. Ensuite, le texte nous propose de voir Dieu qui observe la violence invraisemblable des hommes. Dieu observe et nous dit la Bible, Dieu se repentit. Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé, attristé. Il regretta. Alors ces mots sont très forts. Dieu se repentit se retrouve plus d'une dizaine de fois dans la Bible. Et ici, dans le récit de la Genèse, nous sommes dans un des grands, grands passages fondateurs de la pensée biblique, pas au fond d'un petit écrit improbable ou d'un petit proverbe. Nous sommes ici bien loin du Dieu qui saurait tout, qui pourrait tout, qui serait partout et qui serait immuable comme une brique posée là sur le sol. C'est tout le contraire. Ici, Dieu fait ce qu'il peut. Il a un bon projet de création, de justice, de paix, de bonne entente, mais visiblement, son projet est en partie une merveille. Mais visiblement, il y a aussi en partie un échec cuisant. Les choses ont évolué sans lui. Et Dieu est surpris, il est attristé, il doit évoluer dans son projet, il doit intervenir, et puis on le voit tâtonner finalement dans la façon d'intervenir. Et Dieu évolue ainsi lui-même. Cette façon d'être de Dieu a plusieurs conséquences très concrètes, je crois, sur notre foi et sur la façon dont nous voyons la vie, en fait. Car Dieu n'est pas seulement une personne réelle, tout à fait unique en son genre. Il l'est. Mais dans la théologie biblique, c'est là un point fondamental, il est non seulement notre origine, mais il est aussi notre idéal et notre finalité. Il est l'alpha et l'oméga, nous dit l'Apocalypse. Et donc les actes de Dieu, la façon d'être de Dieu, révèle aussi une façon d'être qui nous est proposée, une façon de vivre. Il nous propose un idéal de notre propre développement. Le récit biblique est ainsi à lire de plusieurs façons. Et donc ce n'est pas un simple petit détail de théologie très abstraite de savoir si Dieu pourrait changer ou pas changer, s'il était tout puissant ou pas tout puissant, s'il était omniscient ou non. C'est plus important que ça. Et c'est même, je crois, vraiment déterminant sur notre façon de vivre. Alors c'est important d'abord pour savoir ce que nous pouvons attendre de Dieu et quelles relations nous pouvons avoir avec lui. Il vaut mieux connaître les personnes avec qui nous parlons, dialoguons, interagissons. Mais c'est important aussi parce que cela change notre notion de la justice, ces notions de sens de la vie. Mais c'est même plus grave que ça encore, plus important que ça encore. Car l'homme est, qu'il le sache ou non, qu'il le veuille ou non, l'homme est façonné par ce qui est l'objet de son adoration. l'homme est progressivement transformé par ce qu'il contemple. C'est ainsi, dans le pire des cas peut-être, qu'une personne qui ne s'intéresse à rien, qui ne se pose aucune question, qui ne philosophe jamais, devient progressivement un robot qui fonctionne au seul rythme du métro, boulot, télé, dodo, en mode de survie minimale. Et il n'est pas neutre non plus d'avoir comme idée de Dieu un Dieu tout-puissant. Il n'est pas neutre d'avoir comme conception de Dieu un Dieu immuable qui ne changerait jamais. Il n'est vraiment pas neutre d'adorer un Dieu qui sauverait, comme dans ce récit du déluge, une seule famille et qui rayerait de la carte toutes les autres familles, tous les animaux de la terre. Alors heureusement que ce récit se poursuit en nous montrant que Dieu change. Et heureusement qu'il y a d'autres visages de Dieu dans la Bible que ce seul récit du début du déluge. Car alors, la théologie que nous pourrions avoir serait celle d'une théologie d'un Dieu juge, tout-puissant, immuable, sans pitié finalement, parce que alors la notion de justice, notre notion de la justice serait terrible. Et ce qui nous serait proposé comme modèle pour vivre en ce monde serait peut-être redoutable. Une telle théologie ou une telle idéologie ne produit heureusement pas souvent des tueurs comme ce monsieur Behring Breivik qui a été l'auteur d'un massacre épouvantable en Norvège la semaine dernière. Mais même si nous n'allons pas jusque-là, nous sommes de toute façon façonnés par l'idéal que nous avons. Nous sommes façonnés par notre théologie, par notre conception de Dieu, ou pour les athées, nous sommes façonnés par notre idéologie, par notre philosophie de l'existence. Alors ces pages de la Genèse sont écrites pour cela, pour nous faire réfléchir et pour nous inviter à évoluer dans notre théologie, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre. Alors on y voit, dans ces pages de la Genèse, que Dieu est créateur. Il crée la nature, il crée l'humanité et il participe à leur évolution. Alors à mon avis, c'est un fait bien réel. Mais en plus, cela nous dit quelque chose de notre vocation. Cela nous dit que nous avons pour vocation d'être créateurs à notre mesure, selon notre propre génie, selon nos propres goûts, selon nos propres choix. Et donc, ces récits où l'on voit Dieu être créateur, cela a une double influence sur nous qui se poursuit au jour le jour. D'abord, en apprenant que Dieu est créateur, nous nous ouvrons à Dieu, en priant ce Dieu créateur. Eh bien, nous l'aidons, nous lui permettons, nous lui demandons de continuer à agir dans notre être. Et cela continue à être une source d'évolution pour nous, finalement, de notre être et de notre vie. Mais en plus, le fait même de penser Dieu comme étant créateur, ça va subtilement influencer notre façon de choisir ce que nous allons faire cet après-midi, ce que nous allons faire demain, ce que nous allons faire des 365 jours que nous avons à venir. Cela va influencer sur notre façon de nous engager, façon d'entreprendre des choses, ou au contraire notre façon de les subir. Ça va influer sur notre façon de rêver l'avenir, notre façon d'être en relation avec les autres aussi, de reconnaître qu'ils sont eux aussi créateurs. Dieu crée donc, nous dit la Genèse. Mais nous voyons dans ce récit qu'il laisse de la place à la liberté de l'autre. Il laisse évoluer l'autre à sa façon. Alors même si nous ne sommes plus dans l'idée d'un Dieu tout-puissant, mais seulement, excusez-moi du peu, d'un Dieu prodigieusement puissant comme source d'évolution pour l'univers tout entier, d'évolution toujours positive, il y a quand même dans cette idée d'un Dieu créateur quelque chose de très actif dans cette notion de Dieu. Et cela nous pourrait nous conduire à des attitudes parfois trop intrusives, parfois trop volontaires, trop dominatrices sur la nature et sur les personnes de notre entourage, voulant toujours les façonner, les modeler comme un potier finalement. Mais la faiblesse de Dieu qui nous est exposée ici, sa discrétion, la place qu'il laisse aux autres, même à des créatures pourtant infiniment plus limitées que lui à tout point de vue, eh bien tout cela nous invite à l'action, mais aussi à la modestie finalement, au respect de l'autre, de ses choix, de sa façon d'être, de ses faiblesses aussi. Dieu crée, mais il sait aussi s'effacer. Il s'efface, mais sans laisser tomber. Il s'intéresse, il tient compte, il n'intervient que si c'est vraiment nécessaire. Alors cette théologie-là, ça a un impact sur notre façon d'être avec les autres êtres humains et notre façon d'être dans le monde, dans la nature. Cette théologie a aussi un véritable impact sur notre foi, sur notre relation à Dieu. Car il ne s'agit plus alors seulement de lui obéir dans la soumission, comme c'est entendu dans la bouche de certains prédicateurs, que ce soit malheureusement dans l'Église chrétienne, peut-être parfois plus encore dans l'islam ou peut-être dans le judaïsme. Il ne s'agit plus seulement de lui obéir dans la soumission, mais il nous autorise à inventer. Il nous appelle à créer notre propre chemin. Il ouvre devant nous une multitude de chemins possibles. Il nous invite à avoir aussi notre propre évolution, à participer à notre propre genèse. Et comme il n'est pas indifférent, Dieu, à notre avenir, ni à celui du monde, eh bien nous savons que cette discrétion et cette liberté que Dieu nous donne n'empêchent pas que nous pouvons vraiment compter sur lui pour nous aider quand il faut, et donc nous pouvons l'appeler à l'aide, nous pouvons lui demander conseil, nous pouvons lui faire part de nos projets, les discuter avec lui. S'il le faut, quand il faut, jamais assez souvent à notre goût, bien sûr. Dieu agira selon ce qu'il considérera comme juste, selon ce qu'il peut aussi en réalité faire, compte tenu des limites qui sont les siennes, car effectivement, il y a des limites. Même Dieu ne peut pas faire pousser un chêne centenaire en une seconde. Dieu change donc ses projets et sa façon de faire pour tenir compte de la situation et des choix des autres. Mais nous voyons ici, dans ce texte de la Genèse, que Dieu change même vraiment dans sa personne, pas seulement dans ses projets pour tenir compte d'un environnement différent. Et le fait que Dieu puisse évoluer en lui-même, qu'il soit lui aussi un être en devenir, cela, c'est bien plus encore en rupture avec ce qu'ont pensé des philosophes grecs comme Parménide ou même comme Aristote, et encore plus les néoplatoniciens qui ont tant influencé nos grands théologiens que sont saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. Et c'est ainsi finalement par la philosophie grecque que cette idée d'immuabilité de Dieu a pris un succès formidable dans la théologie chrétienne, un succès qui n'est vraiment pas évident quand on lit la Bible en détail. Et donc, Dieu, oui, peut évoluer en lui-même. Dieu est un être en devenir, on le voit dans ces textes de la Genèse en particulier, mais dans d'autres textes aussi. Alors il est frappant que la première chose que la Genèse nous dit, donc que la Bible nous dit sur Dieu, dans la première phrase du premier livre de la Bible, c'est que Dieu change et que Dieu est en mouvement. Dans un commencement, nous dit la Bible, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a donc un commencement. Ce commencement ne vient que de Dieu lui-même. Il ne réagit pas là à un environnement, à des circonstances extérieures pour s'adapter, non. C'est Dieu qui, parce qu'il change, est alors source de commencement. Il y a quelque chose qui se débloque, comme un changement de volonté, comme un décret tout d'un coup qui arrive, un changement en Dieu seul. Et le texte insiste en disant que l'Esprit de Dieu est en mouvement. Il est en mouvement, comme une présence discrète, mobile, évolutive, au ras de la matière, pour la faire elle-même évoluer, pour la faire devenir plus belle, pour la faire devenir vivante. Alors, dès le début de l'histoire du déluge, on voit que Dieu change encore, il change ses plans. Bon, là, c'est pour tenir compte de ce qui advient et de ce que les créatures ont choisi de faire. Mais Dieu change plus radicalement que cela dans la suite du texte. Le déluge et l'arche de Noé représentent une première façon d'être et de réagir à ce que sont devenus les hommes, à ce qu'est l'humanité. L'arc-en-ciel et l'alliance de la fin du récit correspondent à une autre façon de faire, une toute autre façon de faire et de réagir face à la réalité bien mitigée de ce monde, de cet univers, car les choses sont encore ainsi après le déluge, en fait. Dieu a changé entre-temps. Et le texte insiste pour dire qu'il a vraiment changé. Et on voit Dieu dire dans cette dernière partie du déluge, « Oui, j'ai changé. Et dorénavant, je ne maudirai plus la terre. Dorénavant, je ne frapperai plus tous les vivants. Cela, c'est fini. C'est du passé. C'est un ancien moi, finalement. Maintenant, Dieu évoluera et cherchera à faire évoluer en alliance, en association avec l'autre, tel qu'il est, même pécheur, même insuffisant, même rebelle. Alors cette nouvelle façon de faire est intéressante, bien entendu, car il nous présente une autre idée de la justice. Mais le fait même que Dieu ait changé au cours du récit, cela est tout à fait essentiel, à mon avis. Cela nous invite d'abord à évoluer dans notre théologie. Oui, nous croyons hier que Dieu était comme ça. Aujourd'hui, nous pouvons évoluer dans notre façon de concevoir Dieu. Alors cela ne veut pas dire que l'on va changer tous les quatre matins de religion ou de confession ou je ne sais quoi. Mais cela suppose d'avoir suffisamment confiance en Dieu, finalement, pour pouvoir faire évoluer sa théologie. Cela suppose de se donner les moyens, comme Dieu ici, de regarder, d'analyser, de chercher à comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants, et d'avoir la modestie de nous remettre un peu en cause et d'oser évoluer, d'oser progresser. Au contraire, une théologie du Dieu immuable projette une certaine conception de Dieu, bien sûr, mais aussi de l'humain et de la vie. Cela invite à durcir nos positions. Voilà, il faut y croire. Alors je vais y croire, je vais forcer ma volonté. Cela nous invite aussi, plus ou moins inconsciemment, à justifier habilement nos travers d'un voile de justice. Cela nous invite à transformer nos idéaux, nos valeurs en idéologie, nos valeurs en moralisme, nos convictions en dogmes immuables que tout le monde devrait adopter. Et nous nous cramponnons alors à ces vérités éternelles comme si la vie en dépendait. Or, le propre de la vie, c'est d'évoluer. Alors que la vérité, avec un grand V, ce ne sont pas des dogmes dans l'Évangile. Mais la vérité avec un grand V, c'est précisément un cheminement et une vie. C'est ce que manifeste Jésus-Christ, c'est ce que dit Jésus-Christ dans ce passage célèbre du chapitre 14 de l'Évangile selon Jean. Et donc une théologie d'un Dieu immuable, ça projette une certaine idée de la vie et de Dieu qui n'est pas favorable à mon avis, qui n'est pas vraie, qui n'est pas bonne. Et cela projette une certaine notion de notre finalité, de notre avenir, du but de notre développement, celle d'une paix figée, comme si notre avenir idéal c'était d'être amorti, avec un grand sourire béat éternellement, un peu comme un beatnik à moitié shooté. Eh bien non, la paix de Dieu, c'est autre chose que cela. Notre idéal de vie peut vraiment être plus grand que cela, plus fécond, plus vivant, plus mobile, à l'image du Dieu vivant. L'au-delà sera encore, j'en suis persuadé, mais nous verrons bien, l'au-delà sera encore fait d'efforts et d'évolutions. Car c'est ça la vie, et donc la vie éternelle sera aussi une vie, pas cette sorte d'inertie terrible. Dans sa nouvelle façon d'être, Dieu promet d'être fidèle, on le voit, fidèle à son alliance. Et cela prend un relief saisissant dans le cadre de cette histoire où Dieu n'est pas immuable. Et la vraie fidélité, oui, c'est cela. C'est garder nos alliances, garder nos attachements, c'est être fidèle alors même que l'autre change, alors même que moi aussi je change et j'évolue, alors même que le monde n'est plus le même. C'est ça la fidélité. Et c'est là toute la différence avec la première façon d'être de Dieu, celle que le récit nous proposait au début du déluge. Cette façon d'être que nous propose d'abandonner le récit de la Genèse. Le déluge et l'appel de Noé par Dieu n'étaient pas sans effort pour vers le bien ni sans bienveillance. Il consistait à discerner le meilleur, puis à le sauver et à écrabouiller tout le reste. Dans notre rapport aux autres, dans notre façon de regarder notre propre existence, notre propre vie, cette façon d'être là, cette première façon d'être du Dieu du déluge, elle ne fait qu'amplifier encore la violence. La deuxième façon de faire, elle est basée sur le changement et sur la fidélité. Les deux sont tenus ensemble. Et il y a là un autre modèle de justice, une autre façon de concevoir ce qui est juste et ce qui est bon. Et en effet, une relation vraie, c'est une relation où les deux parties changent, et non seulement une seule des parties, si possible l'autre qui devrait se convertir, se changer d'opinion, etc. Dieu n'est pas comme ça. Dans ce dialogue vrai qu'il a avec l'homme, il accepte de changer aussi. Une relation vraie, c'est aussi une relation fidèle. Oui, nous changeons. Même quand l'autre n'évolue pas comme j'aurais aimé qu'il évolue, peut-être pas dans le bon sens, eh bien, nous lui resterons attachés, même unilatéralement. C'est ça la fidélité que Dieu nous promet dans ce texte. Et notre Dieu est comme ça. Nous le voyons vraiment en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous pouvons vraiment compter sur Dieu, le vivant, le fidèle. Amen. Et je vous propose de chanter dans le petit recueil « Louanges et prières » le cantique 315, dont les paroles sont inspirées bien sûr du psaume 36 de la Bible « L'Éternel seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui, qu'aurais-je à craindre sur terre ?» Les quatre premières strophes de ce cantique 315. Vous pouvez prendre place. Alors, comme annonce pour ce dimanche, eh bien, il y a d'abord une annonce joyeuse. Il y aura un pot à la sortie dans la grande sacristie, derrière cette belle porte, pour que nous ayons voilà, quelques temps pour discuter un peu entre nous, faire peut-être mieux connaissance. Alors, c'est vrai que pendant les vacances d'été, surtout ce dimanche, où certains sont déjà partis en vacances, d'autres pas encore venus, eh bien, c'est l'occasion peut-être de se découvrir un peu, de discuter un peu à quelques-uns, d'accueillir aussi peut-être des personnes qui sont de passage ou qui sont nouvelles. Alors à la sortie, vous pourrez trouver sur la table d'abord le texte de la méditation que je vous ai proposé, comme presque chaque dimanche. Nous avons le texte et puis la feuille rose, qu'on appelle la feuille rose, qui est le bulletin de notre paroisse. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu et nous pouvons ainsi avoir un geste de consécration, un geste de louange à travers l'offrande de quelques biens matériels. Nous prions Dieu. Ô Dieu, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous as déjà donné en Christ, avec tant d'abondance. Merci pour la fraternité humaine. Merci pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie. Merci pour ton amour. Merci pour cette liberté, ce respect que tu as envers nous. Nous te bénissons pour cet être nouveau que tu fais naître en nous un peu plus chaque jour. Et grâce à toi, nous pouvons enfin penser un peu en vérité à tous ceux que tu confies à nos bons soins. Oui, nous te prions pour tous ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs. Oui, Éternel notre Dieu, avec toi, nous pensons à chaque être humain qui souffre, aux solitaires, à ceux qui ont le cœur lourd, à ceux qui sont dans le deuil d'un être cher, à ceux qui ont des soucis dans la vie en ce monde. Nous prions pour que quelqu'un puisse aller vers eux, que quelqu'un reçoive dans son cœur cette volonté de faire un geste, d'avoir une parole, de faire ce qu'il faut. Oui, avec toi et par toi, nous essayerons d'avancer vers chacun. Et dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, que votre lumière brille par la parole et par les actes, et pour que cela soit possible, nous avons bien besoin de recevoir la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, demeure par ta grâce avec chacun d'entre nous, ô Dieu Sauveur. »